travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique, est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin.
Le cocu de prescription, le cocu absorbé, le cocu de santé, le cocu régénérateur ou conservateur, le cocu propagandiste, le cocu sympathique, le cocu tolérant ou débonnaire, le cocu réciproque, le cocu auxiliaire ou coadjuteur, le cocu accélérant.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. J'ai choisi de vous parler ce matin d'un personnage dont l'actualité n'est pas conjoncturelle, mais durable autant que forte. Une sorte de génie, presque toujours étrange et parfois extravagant, un homme qu'on a surchargé de ridicule et dont s'est révélé cependant peu à peu, de génération en génération, et souvent à plus d'un siècle de distance, la capacité à développer d'assez stupéfiantes intuitions. Il s'agit de Charles Fourier, que nous allons tâcher de faire surgir ce matin devant vous, avec la complicité savante de Philippe Régnier, directeur de recherche au CNRS, spécialiste des socialistes, qu'on est accoutumé d'appeler utopiste. L'ambition intellectuelle de Fourier est si démesurée que personne n'a vraiment réussi, comme l'observe son biographe Jonathan Beecher, à assimiler tout à fait l'ensemble de sa doctrine. Critique de la société, il prêche un écart absolu, comme il dit, par rapport à la civilisation qui l'entoure. Psychologue, il célèbre les passions qu'il ne faut sûrement pas, pense-t-il, combattre, mais honorer au contraire et servir comme source décisive du bonheur. Prophète d'un monde harmonieux, il planifie tout dans le phalanstère, collectivité rêvée, jusqu'au plus menu détail. Moraliste, il est un précurseur visionnaire de toutes les exigences, à nos yeux les plus légitimes, du féminisme contemporain et un dénonciateur implacable des hypocrisies, des modes de vie bourgeois. Écologiste avant l'heure, il développe une mise en cause radicale de la détérioration matérielle de la planète, selon son expression même. Il me semble, vous ne trouvez pas, que cette simple énumération donne le goût d'y aller voir de plus près, au cœur même de notre modernité. André Breton, Ode à Fourier, 1947.
Fourier, je te salue du Grand Canyon du Colorado. Je vois l'aigle qui s'échappe de ta tête. Il tient dans ses serres le mouton de Panurge. Et le vent du souvenir et de l'avenir, dans les plumes de ses ailes, fait passer les visages de mes amis, parmi lesquels nombreux ceux qui n'ont plus ou n'ont pas encore de visage. Parce que persiste, on ne peut plus vainement à s'opposer les rétrogrades conscients, et tant d'apôtres du progrès social en fait farouchement immobilistes que tu mettais dans le même sac. Je te salue de la forêt pétrifiée de la culture humaine où plus rien n'est debout, mais où rôde de grandes lueurs tournoyantes qui appellent la délivrance du feuillage et de l'oiseau. De tes doigts part la sève des arbres en fleurs, parce que disposant de la pierre philosophale, tu n'as écouté que ton premier mouvement qui était de l'attendre aux hommes. Mais entre eux et toi, nul intercesseur, pas un jour qu'avec confiance tu ne l'attendisses pendant une heure dans les jardins du palais royal. Les attractions sont proportionnelles aux destinées. En foi de quoi, je viens aujourd'hui vers toi.
André Cazalas était le lecteur de ce texte le 29 décembre 1973. Philippe Régnier, bonjour.
Bonjour.
J'ai choisi de commencer notre conversation avec cette ode fameuse d'André Breton à Charles Fourier, 1947, donc, Breton est aux États-Unis. Je l'ai choisie parce qu'elle témoigne d'une évolution remarquable de l'idée qu'on a pu se faire de Fourier depuis le temps où il était essentiellement vu comme un réformateur social, penseur annonçant le marxisme. On avait même dit pré-marxiste, ce qui est une formule un peu finaliste, telle que Marx et Engels avaient pu le voir, jusqu'à cette sorte d'icône de la société permissive à partir de 1947 et surtout à partir de mai 68. En l'occurrence, ici, c'est un personnage que se rallie le surréalisme.
Oui, c'est important de commencer par Breton parce qu'il parle alors depuis le Nouveau Monde face à une Europe qui est ravagée par la guerre et qui montre les horreurs de la civilisation à leur plein niveau. Breton, donc, introduit Fourier comme un antécédent du surréalisme. C'est-à-dire qu'il le réintègre dans la littérature, d'une part, et d'autre part, il prend en compte toute la dimension psychologique du travail de Fourier, toute la réflexion sur l'homme, sur ses passions. C'est donc la meilleure introduction que vous pouviez trouver, tout à fait.
Avant Breton, il y a eu Freud, qui a vu en Fourier une sorte d'apologiste du désir et de la liberté sexuelle. Et après lui, Roland Barthes, qui en a fait un logothète, comme il disait, passionné de langage et de néologisme. Donc, d'entrée de jeu, un homme qui peut servir à toutes sortes de démonstrations et créer toutes sortes d'adhésions de nature violemment diverses. Rappelons-nous qui est ce personnage qui a vécu de 1772 à 1837 et dont la vie elle-même est très curieuse. On peut d'abord remarquer que c'est un franc-comtois, comme son disciple considérant, comme Proudhon. La Franche-Comté est une terre nourricière pour le socialisme utopique.
Oui, alors on met cela souvent en rapport avec les fruitières, les fameuses fruitières où l'on fabrique le comté. C'est un provincial, Fourier. Il n'arrive que tardivement à Paris, mais il connaît une province industrielle. Le commerce à Besançon, il est fils d'un marchand de draps qui veut le lancer dans la même carrière, le commerce du drap, qu'il envoie donc en apprentissage à Rouen. Rouen, c'est l'horreur industrielle des filatures. Qu'il envoie à Lyon, c'est les canuts. Le premier problème de prolétaire que nous connaissons en France, qu'il envoie à Marseille aussi, où il voit par exemple un jour un commerçant qui fait couler une cargaison de riz pour faire monter les prix, parce qu'il a peur que les prix baissent. Donc son expérience, c'est celle-là.
Ce sont déjà les fameux les cargaisons de café qu'on brûlera au Brésil après la crise de 1929, les absurdités d'un pré-capitalisme dévergondé.
Voilà, quelque chose qui paraît antinaturel, illogique. Et lui qui fait l'apprentissage du commerce, qui sera toute sa vie dans le commerce, est celui qui dénonce le plus fort le commerce. Imaginez un trader qui construit sa pensée, son existence, contre la spéculation financière.
Kerviel n'est pas visiblement allé jusque-là.
Il a peut-être une œuvre qui nous attend.
Alors soyons patients. Cette sorte de choc initial de l'enfant Charles Fourier, découvrant un certain nombre de turpitudes du commerce, en tout cas les jugeant comme tels, ce début de sa vie, il raconte lui-même dans un texte qui s'appelle « Confidence » et que je vais vous faire entendre. Il est lu par Denis Lorca, c'est tiré du Pays d'ici, octobre 1988.
J'étais à l'âge de 7 ans, épouvanté par les menaces des prédicateurs et les rêves de chaudières bouillantes qui m'assiégeaient toutes les nuits. Je résolus de me confesser d'une foule de péchés auxquels je ne comprenais rien et que je craignais d'avoir commis sans le savoir. Je pensais qu'il valait mieux en confesser quelques-uns de trop que d'en omettre aucun. Là-dessus, je classai en litanie tous ces péchés incompréhensibles pour moi, comme la fornication, et je m'en allais les débiter à l'abbé Cornier, vicaire de Saint-Pierre, église des Annonciades. On m'enseignait au catéchisme et à l'école qu'il ne fallait jamais mentir. Puis, on me conduisait au magasin pour m'y façonner de bonne heure au noble métier du mensonge ou art de la vente. Choqué des tricheries et impostures que je voyais, j'allais tirer à part les marchands qui en étaient dupes et les leur révéler. L'un d'eux, dans sa plainte, eut la maladresse de me déceler, ce qui me valut une ample fessée. Mes parents, voyant que j'avais du goût pour la vérité, s'écrièrent d'un ton de réprobation, « Cet enfant ne vaudra jamais rien pour le commerce. » En effet, je conçus pour lui une aversion secrète et je fis à 7 ans le serment que fit Hannibal à 9 ans contre Rome. Je jurai une haine éternelle au commerce. On m'y enrôla, bon gré mal gré.
Paradoxal, au fond, Philippe Régnier, la vie de cet homme qui a été constamment dans le commerce et qu'il a détesté.
Paradoxal, et on pourrait dire que Fourier, c'est une double vie. Le jour, l'apparence, c'est celle d'un boutiquier, il dit un sergent de boutique lui-même, c'est le bourgeois Louis Philippard tel qu'on l'imagine. C'est pas la vie de Rimbaud, a priori, la vie de Fourier. Mais en même temps, il y a des traits qui montrent que cet homme d'apparence très ordinaire est quelqu'un de tout à fait extraordinaire. Sa sœur raconte que, enfant, il se claquemurait dans sa chambre et il y collectionnait des fleurs et des pots de fleurs de toutes les couleurs, de toutes les senteurs, jusqu'au jour où on est entré et à la place d'une chambre, on a vu une sorte de jardin avec une allée, du gazon par terre, des fleurs partout. Maman Fourier n'était évidemment pas très contente parce que le plancher était complètement pourri là-dessous lorsque l'adolescent est parti faire son apprentissage dans le commerce.
Écologisme en chambre.
Écologisme en chambre, passion de classer, de numéroter, passion de la nature aussi, sentir bon les fleurs dans sa chambre.
Une nomenclature, c'est un homme de nomenclature, de longue liste, de classement.
Un côté naturaliste, Balzac classe, enfin c'est la science un peu modèle. Il y a ce côté naturaliste, plus un côté mathématicien et un côté musical. Il est très bon en arithmétique et le formalisme musical lui parle immédiatement, au point qu'il voudrait inventer un système de notation musicale. C'est un esprit très très logique, qui a sa logique à lui, mais c'est un trait fondamental dans sa personnalité, son intelligence.
Arrive la Révolution, qui le marque beaucoup.
Il n'est pas révolutionnaire, c'est un socialiste, on le dira après coup. Il n'aime pas les philosophes qui sont responsables, pense-t-il, de toutes les catastrophes qui sont arrivées. Il n'aime pas la révolution qui entraîne des massacres à Lyon, qui l'emmène lui-même faire la guerre dans l'armée du Rhin. Je ne dirais pas qu'il est contre-révolutionnaire, mais pour lui, c'est la catastrophe, il la vit comme ça.
Il se définit d'ailleurs contre Rousseau très largement.
Contre Rousseau également, même s'il l'a lu, s'il l'utilise notamment sur l'éducation. Il connaît bien les philosophes tout de même, oui.
Il est ruiné en fait par la période du directoire et les débuts du consulat.
Bon, le commerce ne marche pas bien, évidemment. Il aura un héritage, c'est un homme à héritage, et à certains moments, on le voit vivre de ce qu'il reçoit, tout simplement. Particulier lorsqu'il hérite de sa mère et qu'il s'en va dans le Bugey, vivre à la campagne, et là, prendre la responsabilité des enfants de l'une de ses sœurs. Et il a une ribambelle de neveux et nièces, et c'est là qu'il observe la manière dont ses nièces vivent leurs amours, de manière cachée. Et la théorie de l'amour qu'il en induit est largement empruntée à l'expérience de Bugey et de ses nièces. Expérience dans laquelle, en bon ethnologue, anthropologue, il est lui-même impliqué parce qu'il est un peu amoureux de l'une de ses nièces.
Il se trouve que cet héritage, il le dilapide. C'est un spéculateur malheureux.
À la différence de Saint-Simon, il est plus régulier dans la pratique du commerce. C'est un bon commerçant, un bon teneur de livres, comme on dit, un bon comptable. Donc, il est capable de gagner sa vie. Mais on ne peut pas dire qu'il fasse fortune. Non, c'est pas le cas. Ça ne l'intéresse pas.
D'ailleurs, il mourra, il mourra à l'âge de 65 ans, assez isolé, sauf de quelques disciples. Un vieux garçon, comme on disait à l'époque.
Au Palais Royal, où il passait pour un original qui fréquentait les lieux, d'où quelques écritures de ses disciples sur le fou du Palais Royal.
Attendant un mécène,
bien entendu, qui lui permettrait de mettre en application son utopie.
Et notamment cette création de son imagination qui s'appelle le phalanstère. Le phalanstère, d'où vient d'ailleurs l'expression phalanstère?
Du grec. Phalanx, la phalange d'Alexandre de Macédoine. Mais le côté militaire est une fausse piste en réalité. Le phalanstère, c'est un début de société utopique, c'est un lieu utopique, un immense bâtiment continu, plus grand que le château de Versailles, une espèce de petite ville, de petite cité idéale, et qui se caractérise par le fait qu'on peut y circuler été comme hiver dans des galeries couvertes. ce qui met à l'abri du froid l'hiver et du chaud l'été. L'hiver, ça permet d'aller à l'opéra ou au spectacle sans revêtir de grands manteaux et sans avoir froid. Ça permet aussi d'aller directement de chez soi à son travail, et comme son travail est attrayant, il n'y a pas d'incompatibilité entre le fait d'habiter là où on travaille, au contraire. Donc c'est quelque chose qui s'autosuffit d'une certaine manière, et c'est un lieu de bonheur.
L'architecture est très présente dans la réflexion de tous ces socialistes utopiques de la première moitié du 19e siècle, et votre phalanstère tel que vous le décrivez peut annoncer certaines de nos constructions d'aujourd'hui, avec ces immenses bâtiments des architectes modernes où on peut effectivement vivre comme à l'intérieur d'une ville mais sous un toit.
On peut penser à Le Corbusier par exemple, mais évidemment les HLM sont la caricature de ce que voulait Fourier, qui réagissait en réalité contre la ville de son époque, la ville industrielle. Le Lyon avec ses rues très étroites où l'air ne passait pas, malsaine, où les ouvriers vivaient entassés dans des appartements surpeuplés, où les rues étaient transformées en égouts. Voilà ce contre quoi il réagit. Et le phalanstère, au contraire, c'est un urbanisme heureux.
Ce qui le préoccupe d'abord, c'est de mettre les passions au service de l'organisation sociale. Et je crois qu'on peut dire que c'est peut-être le cœur même d'une doctrine si foisonnante et qui est expliquée par lui de façon souvent si désordonnée. L'idée que bien loin de combattre les passions, comme est en train de le faire de plus en plus la civilisation bourgeoise, il faut les accepter, il faut les valoriser et il faut s'en servir au profit d'une organisation sociale plus harmonieuse et du bonheur des hommes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela, Philippe Régnier ?
La tradition des philosophes, c'est au contraire de dire que les passions sont le mal par excellence et qu'il faut les maîtriser, les contrôler. Fourier, écart absolu, prend le contre-pied exact et explique effectivement que les passions bien organisées peuvent être le moteur de la société et une source de bonheur. Au contraire, le mal social, le malheur, vient de la répression des passions. Donc il y a chez lui une mathématique des passions. Ça paraît fou, bien entendu. Les noms qu'il leur donne sont des noms de fantaisie, des noms poétiques. Mais derrière la nomenclature, derrière la classification, derrière les faux calculs, il y a effectivement une anthropologie, une psychologie, à l'époque où ces sciences, il faut le dire, tout de même, n'existent pas. Fourier montre qu'elles sont indispensables. Il fait en même temps, je dirais, déjà de l'antipsychiatrie. C'est-à-dire qu'il prend en compte tout ce qui est déviance, tout ce qui paraît anormal, pour montrer au contraire que ça peut être une source de bonheur si c'est bien utilisé.
Alors il y a chez lui une fascination des recherches de Newton et de ses disciples. L'idée qu'on peut transposer ses recherches et ses découvertes dans l'ordre psychologique, il parle de l'attraction passionnée, être le Newton des passions.
L'attraction passionnelle, alors évidemment c'est l'époque où Newton est le grand modèle, comme Einstein l'est pour le XXe siècle. Il y a, selon Fourier, trois passions. La kabbaliste, la composite, la papillonne. La kabbaliste, c'est la passion qui fait le charme des cours royales et en même temps le charme du commerce, l'intérêt du commerce, parce qu'il ne dit pas tout à fait, tout de même, que du mal du commerce.
C'est aussi la compétition, la kabbaliste, oui, l'affrontement, le désir de l'emporter sur l'autre.
Oui, le désir de l'emporter sur l'autre, le désir de réussir une intrigue, ce qui nous occupe tous les jours dans nos métiers. Comment va-t-on passer devant l'autre? Comment va-t-on être meilleur? Comment va-t-on contourner l'obstacle? Comment va-t-on entreprendre? C'est ça, la kabbaliste. Donc, c'est la passion industrielle par excellence.
Alors, la composite.
La composite. La composite, c'est le besoin de goûter à la fois deux jouissances, l'une sensuelle, l'autre spirituelle. Le plus bel exemple, c'est bien entendu l'amour, qui est à la fois la chose la plus sensuelle qui soit et qui ne présente pas un intérêt formidable s'il n'y a pas en même temps l'investissement spirituel.
Il y a aussi l'idée affectif. Que pour être heureux dans le travail, il est très partisan du travail équilibré. Pour être heureux dans le travail, il faut combiner les efforts intellectuels et les efforts matériels, le métier concret de l'artisan et d'autre part l'intelligence et la culture abstraite.
Tout l'art de l'industrie, selon Fourier, c'est de rendre le travail attrayant.
L'intellectuel bricoleur, ça existe.
L'intellectuel bricoleur, ça existe. Eh ben, ça existe. Et il en donne un exemple, c'est Louis XVI.
Ah, Louis XVI est un héros positif, donc, pour lui.
Eh oui, parce que il était serrurier.
Et voilà.
Et il y prenait un grand plaisir.
Et alors, la papillonne, finalement?
Alors, la papillonne, c'est le besoin de passer fréquemment à un nouvel enthousiasme avec option de plaisir. Parce que lorsqu'on travaille un peu longtemps, lorsqu'on trouve son plaisir dans l'amour, dans le travail attrayant, au bout d'une heure trente, calcul Fourier, on fatigue un peu. Et donc, on a besoin de passer à autre chose pour renouveler précisément ce plaisir de la composite. Et donc, la papillonne est la passion qui va nous inciter à changer. Je dois encore nommer une autre passion. Et là, on tire plus du côté du socialisme. Cette passion, c'est l'unitéisme. C'est la passion, je dirais, de la philanthropie générale. Et c'est celle qui est la passion motrice de Fourier aussi. C'est-à-dire que c'est ce qui fait qu'il écrit, qu'il accumule des papiers dans sa chambre un peu partout, une masse de papiers où il fait de la théorie sociale.
Je voudrais vous faire entendre une archive qui a conservé le commentaire de Roland Barthes. Il dialogue avec Gilles Lapouge sur Fourier, auquel il s'est beaucoup intéressé. Il évoque la question justement du plaisir chez Fourier. Vous allez voir que cela sonne également assez moderne.
Mais concrètement, si vous voulez, presque dans la vie pratique, dans la vie quotidienne, comment Fourier s'y prend-il pour assurer l'expression de ce plaisir dans la mesure où il est très conscient de la variété des plaisirs? Je crois que le mot n'est pas péjoratif, il dresse des listes de différents plaisirs, par exemple des plaisirs bizarres. Je crois qu'il y a des amateurs de vieilles poules, il y a les spécialistes des choses beurrées. Il y a les manches vilainies. Les manches vilainies, c'est quoi?
Enfin, il n'en a trouvé qu'un dans toute l'histoire. C'est l'astronome Lalande qui, paraît-il, éprouvait un plaisir intense à manger de vilains insectes comme les araignées.
Mais je crois alors qu'aujourd'hui, il y a des adeptes des manches vilainies parce qu'à New York, il y a des restaurants dans lesquels on sert précisément des serpents, des araignées grillées, etc.
Eh bien, voilà.
Donc, Fourier était précurseur sur ce plan aussi.
Mais il était absolument. Eh bien, pour répondre à votre question, c'est-à-dire comment, disons, accomplir ou réaliser le plaisir à l'échelle humaine, à l'échelle sociétaire ou sociale, il faut évidemment remonter à l'idée que Fourier se fait, disons, de la psychologie, à la psychologie fouriériste, c'est-à-dire à ce qu'on pourrait appeler le structuralisme, le mot, je crois, n'est pas de trop ici, le structuralisme des passions qui est mis en œuvre par Fourier. Pour Fourier, les passions, il faut entendre d'abord par passion, disons, les affects, les pulsions, il ne s'agit pas seulement de la passion amoureuse, bien entendu, les affects, les pulsions, les désirs et même les manies, n'est-ce pas? Il faut aller très loin. Fourier défend ce que nous appelons la manie, l'investissement maniaque dans un objet et dans le désir de cet objet.
Il veut dire par là que la notion de normalité doit être supprimée.
Exactement, exactement. Toutes les manies, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire tous les goûts, quels qu'ils soient, doivent être reconnus et le seul problème n'est pas du tout de les censurer ou de les sublimer, mais de les intégrer.
C'est une vision tout de même très optimiste.
Le problème fourriériste est un problème d'intégration.
Alors, Philippe Régnier, cela nous conduit à une réflexion sur ce que Fourier a pu provoquer de concret. Je veux dire que beaucoup de ses contemporains ont pensé que c'était certes un personnage plein d'imagination, mais tellement loin des réalités avec ce qu'il y a de farfelu dans ce qu'il évoque. Par exemple, le fait qu'un jour le soleil, on pourra l'habiter, ou bien que on aura des archibras. C'est au milieu du thorax, ce sera commode d'avoir une troisième main, évidemment. Ou bien que la mer deviendra une limonade universelle. Tout cela éloigne du sentiment d'un minimum de sérieux. Béranger, par exemple, le grand chansonnier Béranger, disait de Fourier, il est bien certainement un génie prodigieux, mais il aime plus son système que l'humanité. Aussi l'orgueil l'a-t-il rendu rebutant et inintelligible, et sans quelques jeunes gens qui ont dégrossi ses livres, il serait mort incompris. Ce serait fâcheux, car il y a merveille à voir l'enchaînement du monde qu'il a créé à lui seul. Alors, ce monde qu'il a créé, il a souhaité passionnément qu'il s'incarne dans quelques tentatives qui étaient destinées à faire exemple et à être ensuite imité.
De son vivant, Fourier a eu à la fois le plaisir et le regret de voir le travail commencer de mise en place de son utopie. Et la première fois, ce fut dans la région parisienne, à Condé-sur-Vègre, tout près de la forêt de Rambouillet. Il avait trouvé, enfin ses disciples plus exactement, avaient trouvé un député, médecin, propriétaire et un agronome qui ont cédé à peu près 500 hectares à une colonie sociétaire. Donc on a fait venir des paysans de Lorraine, de Franche-Comté, de Provence, des forgerons, des... Et on a commencé à construire. On a construit donc un début de phalanstère dans une briqueterie qui avait été aménagée tout exprès. Mais cette forme de colonisation intérieure s'attaquait à des terres sablonneuses où précisément on pouvait rien faire pousser. Et donc, il y a eu beaucoup d'investissements, beaucoup de pertes et pour très peu de résultats. Simplement, les bâtiments demeurent et aujourd'hui encore existe une colonie sociétaire. Je vous recommande d'ailleurs d'aller voir le site. Vous tapez Condé sur Vèvre sur Google et vous voyez un début de phalanstère qui existe toujours et dont les propriétaires, si j'ose dire, ne sont pas vraiment des propriétaires, ce sont des copropriétaires. Ils sont transformés en société civile immobilière, en ménage sociétaire, comme ils disent, en ce sens que ils mangent, très important chez Fourier, en commun. Ils font des repas en commun. Et il y a une grande prêtresse, je plaisante bien entendu, mais c'est le vocabulaire de Fourier, qui organise les repas, les menus, de manière tournante, tous les ans.
Vous plaisantez, mais est-ce qu'il faut plaisanter à propos de Fourier? Est-ce qu'il avait de l'humour? Je crois que c'est Pascal Bruckner qui disait qu'il était le Buster Keaton de la philosophie. Donc en fait, il avait un sens du cocasse profondément ancré, mais qu'il le dissimulait également passionnément.
Il est très drôle dans ses textes, et paraît-il, il faisait rire, il était capable de faire des imitations, y compris d'animaux. Sa réputation, c'est qu'il ne riait jamais.
Donc mais... Buster Keaton.
Oui.
D'ailleurs, quelqu'un a dit, je crois que c'est Baudelaire, le sage ne rit qu'en tremblant.
Eh bien voilà, donc il était très sage.
Et cette manière, comme au judo, en quelque sorte de tirer profit des passions et notamment des vices pour une meilleure organisation, c'est un élément central de sa doctrine. Ce tableau des vices qu'il évoque, les vices, il les déteste et en même temps il essaye de les subvertir. Ce tableau des vices, c'est un extrait d'un de ses livres, lu par Michel Bouquet le 18 juin 1975.
Tableau des vices. Premièrement, les amours vénaux. Il en est de beaucoup d'espèces. La vénalité en amour ne se borne pas aux filles du bazar. Combien d'hommes et femmes de haut parage sont enclins à ce genre de corruption. Quant au peuple, sa vénalité en amour n'est pas un mystère. On en connaît même les tarifs, comme ceux des prix courants de la bourse. Et faut-il s'en étonner quand on voit des tarifs établis sur des vertus de plus fort calibre, comme celles des représentants d'une nation? Deuxièmement, les amours secrètes. C'est encore une kyrielle des plus volumineuses. J'en abandonne le compte aux statisticiens. Ils en rempliront pour la seule ville de Paris 10 tomes aussi épais que l'almanach royal. Tout ce manège, pourtant, est violation des lois morales, civiles et religieuses. Quelle insubordination dans ce monde galant, quelle rébellion à la morale douce et pure. Et comment, à l'aspect de tant d'infractions notoires ou secrètes, peut-on tarder à reconnaître ou que le régime des amours est organisé à contresens des convenances de la vérité et de la morale, ou que, si un tel régime est inséparable de la civilisation, cette société est l'antipode de la morale et de la vérité. Troisièmement, les mœurs du petit monde. Et surtout de la catégorie nommée petite bourgeoise, boutiquière, grisette, etc. Elles sont, avant le mariage, une classe de femmes entièrement libres, surtout dans les grandes villes. Elles ont des amants affichés, à la barbe de père et mère. Elles en ont à rechange en toute occasion, tant connues qu'inconnues. Enfin, elles jouissent à profusion de ce qui est refusé aux demoiselles d'un rang supérieur. Elles passent leur jeunesse à voltiger d'homme en homme. Elles n'en sont que plus intelligentes au travail et plus habiles à empaumer quelque innocent qui les épouse quand elles sont sur leur tour. Cette classe est par le fait émancipée aussi bien que s'il existait pleine liberté en amour. Et pourtant, ladite classe, ouvertement dégagée du frein des lois civiles, religieuses et morales, forme moitié de la population féminine des grandes villes. où les saines doctrines de la morale douce et pure sont prodiguées au peuple. En fait, de petit monde, je m'abstiens de citer les soubrettes et chambrières qui sont censées n'avoir pas connaissance des lois de continence. Du moins, agissent-elles comme si elles n'en avaient jamais ouï parler, bien qu'elles soient, comme les petites bourgeoises, assidues au prône où on leur enseigne ses préceptes. Quatrièmement, les mœurs du grand monde, où classent des gens comme il faut, qui se dispensent des lois morales tout en les protégeant comme bonnes à contenir le petit peuple. Chez des gens comme il faut, le mari a ses maîtresses connues et la dame ses amants connus. C'est ce qu'on appelle savoir-vivre.
Le savoir-vivre, Philippe Régnier. Charles Fourier voudrait enseigner un autre savoir-vivre à propos de ces mêmes vices dont il fait un tableau aussi sévère.
Un autre savoir-vivre. Il est très critique envers ce qu'on appelle à l'époque la civilisation. Et c'est le grand mot, notamment de Guizot, l'éternel président du Conseil de Louis-Philippe. Et il préfère qu'on laisse s'exprimer la nature. C'est pourquoi le mariage lui paraît une de ces règles qui aboutissent à l'effet contraire du but recherché. Le mariage, en fait, organise l'adultère du mari comme de la femme, la servitude de la femme. Il détruit la jeunesse des filles qui sont élevées pour le mariage. Il est source finalement aussi de prostitution. C'est la compensation obligatoire. C'est quelque chose qu'il faut absolument détruire. Et il dit cela à l'époque où l'on rétablit le mariage dans le code civil sans la possibilité du divorce. Donc il prend là aussi exactement le contre-pied de l'évolution civilisée.
L'imbécile civilisation n'a su imaginer que le dernier des liens, le lien forcé, celui du couple. Comment un siècle qui eut l'audace de renverser les trônes et les autels a-t-il fléchi si servilement devant les préjugés amoureux qui n'arrangent même pas les hommes ? Fin de citation. Et en même temps, cette critique du mariage a été vue à l'époque comme extrêmement troublante. À telle enseigne qu'on a publié les 5 cahiers de son manuscrit Le Nouveau Monde Amoureux, qu'extrêmement tard, jusqu'en 1967, à la veille de mai 68, Proudhon lui-même était horrifié par la lubricité du manuscrit dont il avait eu connaissance.
C'était absolument impubliable. Les disciples de Fourier étaient instruits par la mésaventure des Saint-Simoniens qui avaient repris quelques idées de Fourier, les avaient publiées, les avaient assumées et s'étaient retrouvés devant un jury d'assises. Et donc, ils étaient avertis, il fallait que le socialisme se taise sur cette question. Ça ne paraissait effectivement que de manière épisodique, résurgente, censurée le plus souvent, y compris donc par les disciples.
Le moment où précisément les nouvelles règles de la bourgeoisie, avec de la rigueur et pas mal d'hypocrisie, s'imposent pour au moins 100 ans. Je veux dire, sous la monarchie de Juillet, le moment où Fourier peut écrire « Comment a-t-on pu penser que Dieu n'ait destiné l'amour qu'à être l'agent d'un lien tyrannique appelé mariage ? Quelle honte ce serait pour Dieu s'il n'avait inventé la plus belle des passions que pour aboutir à un résultat aussi méprisable ? S'il voyait toutes nos familles recomposées d'aujourd'hui et le fait qu'il y a tant de divorces par rapport au mariage, il se dirait que peut-être on a progressé vers cette prise de conscience.
Ce qui est effectivement étonnant, c'est à quel point l'utopie de Fourier entre dans les mœurs. Bien entendu, on se reporte ensuite au texte et on voit qu'on a encore un peu de retard.
Alors, il y a un texte extrêmement fameux, bien sûr, auquel il faut s'arrêter un instant, et ça vous me direz vous-même, Philippe Régnier, si l'actualité vous en frappe. C'est la hiérarchie du cocuage. Il s'agit d'une description en quelques lignes de 75 types de cocus. Et il y a le cocu en herbe, le cocu imaginaire, le cocu fanfaron, le cocu goguenard ou sympathique, tolérant, ou encore le cocu glaneur. C'est celui qui vient humblement prendre sa part au gâteau et courtise chaudement sa chère moitié pour obtenir d'elle ce qu'elle accorde à tant d'autres, après qui il vient modestement glaner. Le cocu sordide, je ne vous donnerai pas toutes les définitions, le cocu sordide est quant à lui un harpagon qui ne veut pas fournir à la toilette de sa femme, l'oblige à écouter des offres généreuses, tire encore parti du galant qui entretient sa femme et se fait illusion sur cette intrigue par le double avantage qu'il y trouve.
Alors la hiérarchie du cocuage, c'est un manuscrit, là aussi, hein, qui a été sorti par les disciples sous le prince-président Napoléon III.
Hein. Quel choc.
Quel choc ! Ça n'avait pas une publicité telle que ça puisse inquiéter les bonnes mœurs de l'époque, mais il est évident que c'était le genre de choses qui ne plaisait pas beaucoup à l'Église. Si on lit le titre complet c'est « Hiérarchie du cocuage, disposée progressivement en classes, genres et espèces en carrés dédoublés par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ». Vous avez tout fourrié dans un titre pareil, hein. Il y a une mathématique, il y a... Alors c'est quelquefois quelque chose qui peut empêcher de lire, mais en même temps, une fois qu'on a dépassé et qu'on ne cherche pas à y voir une exactitude scientifique au sens actuel du mot, le contenu en revanche se déploie beaucoup plus facilement et on voit derrière beaucoup de réalité.
Il explique d'ailleurs que les hommes et les femmes partagent le privilège, entre guillemets, du cocuage, signe éclatant des dévergondages en réalité d'une société. Non pas qu'il jette un regard moral sur le cocuage, mais il y voit un signe d'un dysfonctionnement. Il explique que les femmes sont bien plus cocues que les hommes. Et si le mari en porte d'aussi haute, entendez des cornes, et si le mari en porte d'aussi haute que les bois du cerf, on peut dire que celles de la femme s'élèvent à la hauteur des branches d'arbres.
Ça fait toujours rire. Et en même temps, il décrit une pathologie sociale typique de la civilisation.
Et cela nous conduit directement à ce qu'on peut appeler le féminisme de Charles Fourier, qui lui est extrêmement moderne. On a même dit, ce qui ne semble pas avéré, qu'il aurait inventé le mot féministe. En tout cas, il s'en préoccupe et il ne cesse pas de redire qu'un des défauts majeurs de la société de son temps, c'est de situer la femme dans une position inférieure. Écoutez ce second extrait lu par Michel Bouquet, un extrait de « Vers la liberté en amour ».
En thèse générale, les progrès sociaux s'opèrent en raison du progrès des femmes vers la liberté. Et les décadences d'ordre social s'opèrent en raison du décroissement de la liberté des femmes. L'extension des privilèges des femmes est le principe général de tout progrès social.
Je voudrais insister sur le fait qu'il s'agit là d'une véritable théorie scientifique, c'est-à-dire qu'il pose ça comme un théorème. Plus les femmes sont libres, plus la société elle-même est libre, plus tout le monde est libre. C'est une sociologie. C'est une science sociale. Ce serait pas mal de temps en temps que nos sciences sociales intègrent ce genre de théorème qui, évidemment, pose des normes, mais en même temps, comprennent des choses fondamentales. Prenez un exemple très bête. Le bal, l'institution du bal. Le bal où on conduit la jeune fille, Fourier est tout à fait opposé à ça. Il explique que le code du bal est d'une misogynie absolue. Voilà des femmes qu'on conduit au milieu d'une foule d'hommes,
sous le regard de leur mère, bien entendu,
le but étant de les marier, et qui ne peuvent rien choisir. C'est-à-dire que quelqu'un se présente à elles, elles ont le choix. Elles peuvent refuser de danser, mais alors là, elles s'ennuient toute la soirée, et si elles acceptent quelqu'un, elles sont obligées, à la suite, d'en accepter une demi-douzaine pour lesquelles elles n'ont aucun intérêt. Elles ne choisissent rien. La vraie règle, selon Fourier, ça devrait être leur liberté de choix. La liberté des femmes de choisir les hommes qui les attirent.
Et d'en changer, comme les hommes eux-mêmes, pendant une bonne partie de leur vie, si elles le souhaitent.
Tout à fait. Selon une typologie qui est la même que celle des hommes, certaines femmes pourront choisir de vivre avec un même homme pendant un certain temps, puis d'en changer, tout en se montrant fidèles pendant un certain temps. D'autres préféreront, comme les hommes, avoir plusieurs amants en même temps, mais elles le feront dans la transparence. Et c'est ça qui fera toute la différence par rapport à la civilisation, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas la tromperie, la même tromperie que Fourier observe dans le commerce.
Dans mes placards, toutes mes robes sont très gentilles et j'en mets une au hasard. Mais pour le choix de mon chapeau, c'est différent. Et c'est pour cela qu'il m'en faut 200 paros. Mon petit chapeau blanc, je le mets pour Fernand. Mon petit chapeau vert, je le mets pour Albert. Mon petit chapeau gris, c'est pour mon mon Henri. Mon petit chapeau noir, c'est pour mon Édouard. J'en ai un à pois, c'est pour mon Éloi. Celui de chez Lewis, c'est pour mon Maurice. Mon chapeau marron, c'est pour mon Léon. Et mon chapeau de tulle, c'est pour Théodule. Celui qui a un petit oiseau, fine plume jaune et des petits carousels, pour mon Pierrot. Mais quand je sors avec Victor, je mets le grand tout en tu sors. J'en ai un tout petit, extrêmement gentil, avec des glaïeuls. Je le mets quand je sors seul, sans en avoir l'air. Celui que je préfère, c'est mon chapeau vert, tout vert, que je garde pour Albert. Dès qu'un homme m'a séduite, je me prête à ses affronts. Et puis je cours chez ma modiste afin d'y cacher mon front. Et l'on connaît mon déshonneur encore tout chaud, rien qu'en regardant la couleur de mon chapeau. Mon petit chapeau blanc, je le mets pour Fernand. Mon petit chapeau vert, je le mets pour Albert. Mon petit chapeau gris, je le mets pour Henri. Mon petit chapeau noir, je le mets pour Édouard. J'en ai un à pois, c'est pour mon Éloi. Celui de chez Lewis, c'est pour mon Maurice. Mon chapeau marron, c'est pour mon Léon. Et mon chapeau tulle, c'est pour Théodule. Celui qui a un petit oiseau, une plume jaune et des petits carrousels, pour mon Pierrot. Mais quand je sors avec Victor, je mets le grand tout en du sang. J'en ai un tout petit, extrêmement gentil, avec des glaïeuls. Je le mets quand je sors seul, sans en avoir l'air. Celui que je préfère, c'est mon chapeau vert, tout vert, que je garde pour Albert.
Je ne sais pas, Philippe Régnier, si vous jugerez que Mireille, qui interprète ici une chanson de Jean Nohain en 1933, si Mireille est une disciple de Charles Fourier.
Le texte, à l'évidence, convient tout à fait. Hein. On a une classification, un cocuage organisé, mais en même temps, un aveu. La femme parle, elle dit ce qu'elle aime. Et là, on n'est plus dans le cocuage, on est dans l'organisation de la liberté amoureuse.
On pourrait faire, en vérité, une anthologie des textes de Fourier qui... sonne tellement juste et actuel du point de vue du féminisme contemporain quand il dit, par exemple, en s'adressant aux hommes, « Vous, sexe oppresseur, ne surpasseriez-vous pas les défauts reprochés aux femmes si une éducation servile vous formait comme elles et pour ramper devant un maître que le hasard vous donnerait ?»
Oui, alors je vais faire comme Fourier, je vais procéder un peu par écart en vous disant que Fourier s'occupe aussi des hommes, figurez-vous, et des hommes qui souffrent des femmes civilisées. Et qu'il illustre
dites
par...
Dites civilisé,
absolument. Qu'il illustre par l'exemple du canard. Le pauvre canard, absolument, qui a une extinction de voix. Tellement il est dominé par la canne, une fois qu'il s'est marié avec la canne, cette mégère, qui cancane bien plus fort que lui, qui bat des ailes autour de lui, qui mène un train d'enfer, alors qu'il croyait trouver le repos dans le mariage. Le pauvre canard regrette le mariage. Et il aurait tout intérêt à ce qu'il n'y ait pas de mariage et à ne pas imposer cette servitude à la mégère. Il en souffre lui aussi.
La canne, en fait, installée dans cette prison, se revanche en direction du canard. C'est ça l'idée.
La conséquence, bien entendu, on revient au théorème. L'homme ne peut être heureux que si la femme est libre.
Puis un autre domaine dont il faut parler, bien sûr, c'est l'écologie. Il y a là une modernité de Fourier, une préoccupation devant la destruction de la planète qui est tout à fait surprenante.
Il est le seul socialiste utopique à prendre en compte ce problème. Les Saint-Simoniens veulent abolir l'exploitation de l'homme par l'homme, c'est leur formule, mais ils la remplacent par l'exploitation du globe. Alors que ce soit une exploitation raisonnée, c'est une chose, mais ils n'ont aucune idée des dégâts que peut produire l'industrie, que peut produire la science mal utilisée sur la planète.
Il s'inquiète de l'avoir déjà usé comme un savon.
Il s'inquiète et il a cette idée tout à fait actuelle. Aujourd'hui, vous savez, on dit qu'il y a des facteurs anthropiques de dégradation de la planète. Et il dit que l'homme est coopérateur avec Dieu du destin de la planète. C'est-à-dire que ce que fait l'homme influe grandement sur la planète. Idée folle à l'époque, Absolument, hein, où la grande science et l'astronomie, on n'imagine pas une seconde que l'homme puisse avoir un effet sur le cours des planètes. Eh bien Fourier, oui, lui, il le pense.
Il écrit « Le climat de France est devenu méconnaissable depuis un demi-siècle. Et si ce mal faisait les mêmes progrès pendant un autre demi-siècle, on peut dire sans exagération que cette contrée, autrefois surnommée la Belle France, deviendrait un rude et âpre climat, très pauvre et désagréable à habiter. Les saisons semblent travesties, ramenant l'hiver à l'époque du printemps et tombant dans des excès continuels sans transition ménagée. » Fin de citation.
Alors, la cabale m'entraînant, je vais jouer citation contre citation, Jean-Noël Jeannet, et vous dire un peu ce qu'il dit des forêts et de la loi qui permettrait donc à des propriétaires individuels de s'emparer des forêts domaniales et royales pour les exploiter et donc couper pour le profit. Eh bien, si ça se passait ainsi, le pays dépourvu de bois, son industrie serait ruinée et sa température bouleversée par le seul ravage des forêts. Les vents froids et les orages domineraient tellement que les vignobles ne pourraient plus produire, ainsi qu'il est arrivé des oliviers dans le midi de France depuis que la destruction des forêts a changé la température. Plus la rareté des bois se ferait sentir, plus l'appât du gain et l'impatience de jouir exciteraient à la coupe des forêts excitantes et aggraveraient le désordre climatérique au point de réduire au tiers ou à moitié le produit total du territoire et de ses manufactures. Il dit que l'industrie peut devenir contre-industrie. Elle peut avoir des effets qui réduisent la croissance.
La chose est d'autant plus remarquable qu'il écrit à l'aube de la véritable révolution industrielle, dans un monde qui n'est pas encore marqué profondément par l'influence de la machine, puisque, je le rappelle, il meurt en 1837.
Il a tout de même l'expérience des villes industrielles. Je parlais de Rouen et de Lyon. Et il est beaucoup plus critique que mes chers Saint-Simoniens envers l'industrie, bien sûr, oui.
Il observe, en citant un propriétaire de la vallée de Montmorency, il observe que l'eau risque de manquer pour la culture des cerisiers réputés de la vallée. La diminution des eaux qui fertilisaient notre vallée de Montmorency ne tardera pas à lui faire perdre les épithètes de belles, de riches que lui ont prodiguées les Tressans, les Jean-Jacques, etc. Le cerisier ornement de notre vallée, qui sur notre sol ne demande que de l'eau pour engrais, ne jouira bientôt plus de cette humidité bienfaisante à laquelle ne peut suppléer l'industrie du propriétaire. Le souci actuel de l'eau, devenue une substance rare aux yeux de nos contemporains, et bien il l'a déjà, Charles Fourier.
En même temps, il nous aide à prendre des distances envers quelques lieux communs de notre écologie moderne. Un exemple, il n'est pas du tout pour l'inaction sur la planète. Son remède à lui aboutirait à faire fondre les pôles, ça lui plaît beaucoup.
Allons
c'est
bon.
Ce qu'il appelle un échauffement. Il le voit de manière tout à fait positive.
Donc il serait content donc de ce que nous constatons, nous, avec chagrin, du côté des pôles de notre,
absolument.
De notre planète.
Il imagine qu'il ferait la même température à Paris que dans le midi de la France, et il n'y voit que des avantages. En réalité, il pense que la planète est trop froide, parce que la Lune est un astre mort. Et donc tout notre problème viendrait non seulement du mal social, qui retarde l'amélioration possible, mais de ce mal naturel, d'une lune pourrissante, putride, qui nous envoie des arômes méphitiques, comme il dit. Par conséquent, si l'homme prend en main sa planète, il va aider la nature à se rétablir d'elle-même, et donc à se réchauffer, à devenir plus souriante pour l'homme, et une des conséquences sera que les vents, par exemple, vont devenir plus réguliers. Et l'on pourra voyager sur les mers avec la même sécurité que sur les terres. Il n'y aura plus de désordre, de tempête. Il est intéressant d'observer comment il peut n'avoir pas dans cette affaire exactement les mêmes valeurs et les mêmes craintes que nous. Et je crois que relire Fourier, ça nous aide à prendre notre distance envers une certaine doxa écologique qui ne nous aide pas en réalité à améliorer notre environnement.
Pour appliquer la même réflexion, j'imagine, à un autre domaine dont il s'est préoccupé, c'est-à-dire la question de la médecine douce. et ce qu'il appelle aussi, du point de vue de la manière de s'alimenter, la gastrosophie. Je voudrais que vous me parliez de cela, non sans écouter d'abord une interview du proviseur du lycée hôtelier de Poligny, on est toujours en Franche-Comté, vous avez observé, qui réfléchit à ce que c'est que la modernité d'une gastrosophie, la sagesse de l'estomac, en somme. C'est un extrait de l'émission Le Pays d'ici, le 22 octobre 1993.
Un zéphyr de Saint-Jacques, sauce cardinale. Où est le cardinal? Alors, c'est une assiette très, très épurée, où le produit important est mis au centre en valeur. Et tout autour est fait pour que ce produit central soit, c'est-à-dire que la Saint-Jacques soit mis en valeur. Donc c'est là, si vous faites la moindre erreur de présentation, c'est fichu. Hein. Alors on va goûter la sauce d'abord, et puis on va sortir cette sauce de, sans doute, je crois, ça doit être de la salade ou du chou, je ne sais pas exactement, et puis à la Saint-Jacques après.
Pour vous, cette gastrosophie, c'est bien plus qu'un repas et qu'un plat dans votre assiette.
Ah, c'est bien plus que ça. Je veux dire, c'est aller à la rencontre de celui qui l'a créé et aller à la rencontre de celui qui est à côté de vous, qui le déguste. Je dirais que c'est une éducation à l'attention et à l'écoute. Donc ça va beaucoup plus loin que la simple description sensorielle et technique d'un plat. C'est une écoute de l'autre. Et je crois qu'il faut prendre la gastrosophie également dans cette dimension. Voilà.
C'est une éthique, donc.
Pour moi, c'est une éthique. Et je le conçois comme ça. Et c'est ce que nous essayons de faire partager aux élèves. Hein. Et les élèves qui ont cette formation ont une autre approche de la communication et de la relation.
Il y a là, Philippe Régnier, beaucoup de la personnalité de Charles Fourier.
Il y a là aussi une marque de son écriture et de sa façon de penser. Il invente un mot nouveau. Il le fait un petit peu en pensant à Rabelais, j'imagine, à la gastrolatrie et à tous les développements rabelaisiens sur le sujet. Mais en même temps, il propose une forme de sagesse et une forme d'organisation autour de cette passion fondamentale qui est l'appétit.
Il n'est pas question pour lui de dénoncer la gourmandise comme l'un des péchés capitaux. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a que la paresse qu'il dénonce comme tel.
Ce qu'il dénonce, c'est le repas civilisé, fait pour l'homme. Le dimanche, on commence par une soupe aux choux.
Pour le mâle.
Pour le mâle, qui arrose ça avec du vin. On suit par un bouilli de bœuf. La femme et les enfants n'en peuvent plus. On enchaîne avec une tête de veau. Et arrive enfin seulement le dessert, et qui intéresse véritablement les enfants et les femmes. Il faut renverser tout ça.
Commencer par le dessert.
Commencer par le dessert, le sucré.
Sagesse de la gastronomie, gastro-sophie. Puis il faut retrouver le goût des bons produits, et cela c'est assez actuel aussi. Dans l'état d'association, dit-il, chaque canton ne produira que des denrées exquises. Aussi voit-on chez nous des denrées de mauvaise qualité, 20 fois plus abondantes et plus faciles à placer que les bonnes auxquelles personne ne veut mettre un juste prix.
L'obstacle pour Fourier, c'est la chimie de son temps, la science, la chimie moléculaire qui se développe et qui permet de faire du faux pain avec de la pomme de terre, du faux sucre avec de la betterave, du faux vin avec du bois de l'Inde. C'est le commerce, la fausseté toujours. Il accuse ces produits d'entraîner des désordres sur la santé humaine. Lui-même est très soucieux, très attentif au choix de son pain. Bien entendu, la traduction en termes d'organisation politique, c'est dans la paysannerie une étroite association entre le producteur et le consommateur. Ces comptoirs ruraux, paysans, effectivement, peuvent évoquer les tentatives actuelles pour rétablir un contact direct entre le producteur et le consommateur, un échange, une association, chacun y trouvant son compte, une proximité également, un lien social. Bref, tout ce que le commerce a réussi à rompre depuis un siècle.
Et puis, il y a un lien entre l'art de se nourrir et la médecine. Fourier est une sorte de prophète des médecines douces d'aujourd'hui. Il écrit une fâcheuse lacune et de n'avoir pas su lier la médecine avec le plaisir et surtout avec celui du goût. On a vu, dit-il, des cures opérées avec des confitures, des raisins, des pommes rainettes, des bons vins. J'ai vu une fièvre coupée et dissipée par un petit verre de vieille eau de vie. Le peuple a contre le rhume un remède agréable, une bouteille de vin vieux, chaud et sucré. Et le sommeil à la suite, etc.
Il semblerait tout de même que l'utilisation du vin comme remède n'ait pas absolument réussi à Fourier sur la fin de sa vie.
Alors que l'excès est pourtant contraire à sa doctrine.
Oui, donc il arrive que les plus grands philosophes commettent quelques faux pas.
Je ne voudrais pas que nous terminions sur ce faux pas sans rendre hommage aussi à ses disciples, car plusieurs ont été remarquables, notamment Victor Considérant, qui a beaucoup contribué à la doctrine, à l'extension et à l'influence de la doctrine de Fourier, qui était également un franc-comtois.
Oui, et un polytechnicien, donc un organisateur. La grande réussite, c'est peut-être au plan pratique un certain nombre de colonies, dont une colonie au Texas, mais surtout la colonie du Familistère de Guise. Et il faut absolument aller voir le Familistère de Guise.
Expliquez-nous de quoi il s'agit.
Eh bien, le Familistère de Guise, c'est, je dirais, le Google d'aujourd'hui, c'est-à-dire c'est une entreprise de pointe.
Guise, c'est près de la frontière belge.
Oui, c'est dans l'Aisne. Pas si loin tout de même, dans l'Aisne. Donc, c'est les poêles Godin, les fameux poêles Godin. Donc, un acier très, très particulier, une industrie qui rapporte beaucoup. Et avec les bénéfices de ce produit, Godin, qui est un industriel converti au fouriérisme, donc qui a lu Considérant, bien entendu, fait un phalanstère. C'est-à-dire, il installe ses ouvriers dans un grand bâtiment au centre duquel il y a une verrière qui est éclairée par une verrière. Donc, on est à l'abri du chaud et du froid. Des courants d'air permettent d'éviter les effluves malsaines. Ils ont à côté une piscine, des commerces. Il y a des salles publiques pour organiser les fêtes. On est donc dans la réalisation de l'utopie et ce familistère existe toujours. Il est même en cours de reprise en main, si vous voulez, comme lieu de mémoire fondamental dans la région.
On visite ?
On le visite.
Alors voilà une bonne destination de week-end pour nos auditeurs et nos auditrices. Merci beaucoup Philippe Régnier. Je voudrais rendre hommage, comme je l'ai fait au début de cette émission, à la très belle biographie de Fourier, qui est due à un savant américain, Jonathan Beecher, Fourier, le visionnaire et son monde, publié chez Fayard en 1993. Et puis il nous donne, cette année même, un ouvrage consacré à Victor Considérant, que nous avons pour finir honoré, Philippe Régnier, Grandeur et décadence du socialisme romantique, les presses du réel, 2012. Vous avez publié un ouvrage qui s'appelle « Le siècle des Saint-Simoniens », édition du Seuil et de la Bibliothèque nationale de France, puisque cela était notamment le fruit d'une exposition de 2006 en collaboration avec la conservatrice Nathalie Coyi, avec toujours des penseurs utopistes généralement rejoints par des polytechniciens. C'est l'étrange dialogue entre les rêveurs et les ingénieurs.
Ce qui prouve que l'utopie, en réalité, comme le dit André Breton, c'est un levier pour transformer la réalité.
Acceptons-en l'augure. Merci Philippe Régnier. Vous pourrez trouver une bibliographie, je parle là à mes auditeurs et auditrices, complète, vous n'en avez pas besoin. Vous pourrez trouver une bibliographie complète sur notre site et les références des documents sonores que nous avons utilisés. Et vous pourrez également, vous le savez, écouter, réécouter et podcaster cette émission. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeanneret réalisée par Patrick Molinier, avec la précieuse collaboration de Jeanne Guéroux et de Nathalie Lempereur, avec à la prise de son, on lui en sait gré, Éric Villenfin, avec Jacotte Degrange à la discothèque et Catherine Louis pour les archivinas.